RFI 6h44 en temps universel. Et la suite de RFI Matin nous emmène en Allemagne, pays confronté, on en parle souvent, au vieillissement de sa population. Un Allemand sur cinq a aujourd'hui plus de 65 ans et ça ne va faire qu'augmenter dans les prochaines décennies. Une tendance démographique aux conséquences très lourdes, notamment sur le plan économique, et qui fait surgir de nombreuses questions, notamment celle-ci. Quelle prison pour les seniors? Alors que la population carcérale ne cesse de vieillir elle aussi, nous sommes ce matin en Rhénanie, dans l'ouest du pays, où se trouve la plus grosse unité de prisonniers seniors en Allemagne. Une prison un peu particulière pour s'adapter aux besoins de ces détenus plus fragiles. Reportage Nathalie Versieux.
Difficile de penser à une prison quand on franchit la porte de l'établissement pénitentiaire de Zenne, à 200 km à l'est de Cologne. Ici, ni barreau, ni parloir, le hall donne directement sur le parc. Trois prisonniers vêtus d'un t-shirt rouge passent la serpillière. Tous les espaces sont ouverts et les cheveux gris ou blancs dominent. La directrice du département senior, Maike Mönikes.
Nous voyons ici beaucoup de personnes atteintes de vieillissement précoce par rapport au reste de la population. Nous avons des personnes atteintes de diverses formes de démence, de cancer, des personnes qui ont du mal à se déplacer et qui ont besoin d'un déambulateur.
Comme le reste de la population carcérale vieillit en Allemagne et les seniors ont des besoins spécifiques. À la prison de Zenne, les départements réservés à 87 seniors occupent deux étages accessibles par ascenseur.
Donc deux ascenseurs le long des murs. Il y a une balustrade qui court tout le long du couloir.
Ah, c'est une douche, mais... Il y a
donc une salle de bain en fait avec des douches. Dans chaque département de douche, il y a des poignées pour s'accrocher. Un tabouret sur lequel on peut s'asseoir pour se laver.
Le détenu affecté à la bibliothèque nous fait visiter sa chambre.
Pendant des années, j'ai été dans une autre prison fermée. Mais ici, je suis redevenu un être humain.
La réinsertion, c'est le credo de la directrice Kerstin Oeltke-Meierschwick.
Dans une prison fermée, vous ne pouvez pas préparer les gens à la liberté. Une prison fermée, c'est comme d'apprendre à nager hors de l'eau. Pour ça, il faut leur donner petit à petit plus de liberté, aussi en dehors de la prison. C'est de toute façon bien plus sûr pour la société dans son ensemble.
À Zenne, tous les personnels en sont convaincus. Le concept de la prison ouverte a fait ses preuves. À Zenne, le taux d'échec est stable. Entre 0,1 et 0,3% des prisonniers qui ne rentreraient pas à la fin du week-end, par exemple. Reste un défi, la fin de vie en prison et le développement de soins palliatifs sur place pour ceux qui, détenus de longue date, préféreraient finir leur jour dans le seul environnement qu'ils connaissent. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Notre reportage international en Allemagne que vous retrouvez sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Roel.
Et à la une de l'info ce matin, les États-Unis où Donald Trump envoie l'armée en Californie. 2000 soldats de la garde nationale vont être déployés à Los Angeles. Annonce du président américain cette nuit face aux manifestations contre les coups de filet de la police de l'immigration. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, dénonce une décision volontairement incendiaire. Dans la bande de Gaza, 36 morts de plus hier dans les bombardements israéliens. 6 personnes tuées notamment à proximité d'un point de distribution de la GHF, la Gaza Humanitarian Foundation, sous contrôle israélien et américain, déjà marqué par de nombreux morts lors de son lancement. 300 000 personnes ont manifesté hier à Rome pour exiger la fin de la guerre. Et puis en Colombie, un candidat à la présidentielle de l'an prochain blessé à la tête dans une fusillade qualifiée d'attentat par le gouvernement. Miguel Uribe, sénateur conservateur, était en meeting à Bogota. Il est actuellement à l'hôpital en soins intensifs. 2 autres personnes ont été blessées. Du foot. Enfin, et sur les terrains aujourd'hui, la finale de la Ligue des Nations à Munich en Allemagne, Portugal, Espagne. C'est à suivre à 19h, temps universel en direct et en intégralité sur RFI. Elle nous présente ses têtes d'affiche chaque dimanche matin, les parcours de celles et ceux qui innovent et entreprennent sur le continent africain. Denise Epoté de TV5 Monde et sur RFI avec Nicolas Brousse.
Bonjour Denise Epoté.
Bonjour Nicolas Brousse.
Sur la première marche de votre podium cette semaine, un innovateur originaire du Cameroun, bienvenue Achinale Adama, a conçu Eco Virtuosel, un processus de collecte de déchets numériques pour lutter contre la pollution numérique qui est invisible mais qui participe largement aux émissions de CO2.
Le défi de la pollution numérique est invisible mais massif. Chaque heure de streaming sur un écran large consomme 100 fois plus d'électricité qu'un smartphone. À l'échelle des 5 milliards d'utilisateurs d'Internet, cela représente une part non négligeable des émissions mondiales de CO2. Un iPhone à lui seul génère jusqu'à 116 kg de CO2 sur sa durée de vie. Pour tenter de remédier à cette pollution pernicieuse, bienvenue Achinale Adama a décidé de sensibiliser les jeunes et les citoyens du Sahel à l'empreinte carbone du numérique en alliant pédagogie, recyclage, intelligence artificielle et plaidoyer. Eco Virtual Sahel transforme des internautes passifs en citoyens numériques responsables, conscients de leur impact environnemental. En attendant des financements pour déployer à grande échelle son projet, à ce jour, bienvenue Achinale Adama a sensibilisé 350 jeunes dans les régions du Nord, de l'extrême Nord et du littoral du Cameroun. Des collectes collectives dans des quartiers ciblés sont organisées. Les habitants sont invités à remettre leurs objets numériques usagés. La collecte est suivie d'un tri et d'un diagnostic rapide afin d'évaluer le potentiel de réutilisation ou de recyclage. L'association développe également une approche unique de la citoyenneté numérique écologique, éduquant les populations à réduire leur empreinte numérique à travers des modules de formation, des campagnes de sensibilisation et l'usage de solutions basées sur l'intelligence artificielle. En plus du recyclage, Eco Virtual Sahel encourage la réparation locale des appareils.
Denise, votre seconde tête d'affiche est une sage-femme d'État originaire du Togo, ingénieure en nutrition et sécurité alimentaire, diplômée de l'université de Kara. Amadine Ezaadjo a lancé en 2023 Nourris-moi, une start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire en collectant des excédents alimentaires auprès des restaurants, des supermarchés et des producteurs pour les redistribuer aux plus démunis.
L'idée de Nourris-moi a germé lors des enquêtes de terrain menées par Amadine Ezaadjo auprès des populations dans le cadre de sa soutenance de thèse qui portait sur les attitudes et états nutritionnels des femmes en âge de procréer. Elle remarque alors que plusieurs personnes peinent à faire 2 repas par jour, alors qu'au même moment, dans certains foyers, des restes sont jetés au lieu d'être réutilisés, des aliments se périment et on achète plus que nécessaire. Nourris-moi est une initiative qui répond à un double enjeu social et environnemental en faisant en sorte que chaque aliment compte pour une économie plus circulaire et solidaire. En moyenne, 100 kg de denrées sont collectés par mois dans la capitale. Les bénéficiaires sont informés de la disponibilité des aliments via WhatsApp. Lors du concours national TogoTech, qui mettait en compétition 50 start-up, Nourris-moi a été classé parmi les 3 finalistes qui ont représenté le pays au Jitex Africa, qui s'est tenu à Marrakech au mois d'avril.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Et nous, Denise, on se dit à dimanche prochain.
À Denise Epoté avec Nicolas Brousse. Au Sénégal, c'était une première. Les architectes de tout le continent s'étaient donné rendez-vous à Dakar pour le premier symposium des architectes africains. C'était pendant 3 jours. Du 22 au 24 mai, une centaine d'entre eux ont bûché sur le thème « Repenser les villes africaines pour une perspective durable » avec à la clé de leurs échanges une déclaration commune et une série de recommandations aux États pour améliorer la qualité des villes sur le continent. Reportage, Léa Lisa Westerhoff.
Spéculation foncière, croissance galopante des villes et avec quelles solutions architecturales y faire face. Une centaine d'architectes se sont succédés de table ronde en table ronde. Une rencontre inédite, comme le rappelle Angela Mingas, architecte venue d'Angola.
C'est la première fois. C'est waouh. Ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu et c'est la première fois en Afrique. C'est très important.
Pour elle, c'est une rencontre cruciale.
Parce que les villes ont les mêmes problèmes à travers le continent. Nous avons tous cette dualité d'un centre-ville hérité de la colonisation et d'une périphérie. Même si nous sommes différents, nous partageons les mêmes défis. C'est donc une opportunité inédite pour échanger des connaissances.
Et pour Babasek Bali, un entrepreneur dans l'immobilier venu spécialement du Mali, il y a urgence à trouver des solutions communes.
Vous imaginez comment on va vivre à Dakar dans 20 ans? Ça va être très compliqué. Trop de monde, trop d'embouteillages, trop de CO2 et tout le reste. Le gros problème, c'est la spéculation. Malheureusement, les spéculateurs sont toujours en avance sur les planificateurs, ce qui fait que nos villes s'agrandissent dans un désordre total.
Face à ce désordre et pour rattraper les erreurs de l'urbanisation anarchique, les architectes ont produit un mémorandum commun, une déclaration de Dakar, qui veut entre autres corriger la ségrégation spatiale héritée de la colonisation, réaffirmer l'importance d'utiliser les solutions et connaissances architecturales du continent, adaptées au continent, mais aussi encourager les États à adopter des normes de construction plus durables. Exemple avec les briques de Tifa, du nom de cette plante qui pousse partout au Sénégal, une brique bien plus durable que le ciment. Encore faut-il en connaître l'existence, comme l'explique Ernest Dion. Il co-dirige le bureau BioBuild Africa.
C'est une innovation qui a besoin d'être supportée au point de vue législatif, au point de vue réglementaire, que l'État le supporte par exemple par des réglementations, des incitations, encourager les gens à utiliser ce matériau et qu'on puisse l'accompagner avec une normalisation pour pouvoir lui donner une reconnaissance scientifique et technique.
Pour cela, il faut aussi augmenter les capacités de production des entreprises qui la fabriquent, d'énormes chantiers qui ne réussiront que si les États africains s'emparent de ces recommandations formulées par les architectes. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Notre reportage Afrique au Sénégal, bientôt 7h à Dakar et en temps universel. Et bientôt 9h ici à Paris. Avant le prochain journal, on reparle de la mer à la veille de la conférence des Nations Unies sur l'océan. 100% création nous fait découvrir la marque Paradoxal Surfboards, installée en Bretagne et spécialisée dans la réalisation de planches de surf éco-responsables fabriquées à partir de matériaux biosourcés issus de déchets marins. Rencontre avec son créateur Jérémy Lucas au micro de Maria Afonso.
Tout est beau dans le surf. Le rapport au sport change. Les questions d'ordre environnemental, c'est déjà ancré. Et là, on est quelques makers hein, en France et dans le monde à essayer de participer à quelque chose de plus vertueux, de plus respectueux sur cette industrie-là.
Jérémy Lucas, fondateur de Paradoxal Surfboard.
Paradoxe du surfeur, cette personne qui a cette conscience environnementale du fait de sa pratique, mais pas d'autre choix que d'utiliser du matériel fait à base de pétrole. Ce qui est paradoxal aussi, c'est le fait qu'on utilise un déchet qu'on trouve dans l'océan, l'algue, dans un objet qui va retourner dans l'océan. Et l'autre paradoxe, c'est que je ne suis ni designer, ni chimiste, et pourtant je propose un projet qui fait déjà parler dans l'industrie du surf, et ça c'est assez paradoxal aussi.
Jérémy Lucas est originaire de Bretagne. Après un parcours académique en technique de commercialisation, management de projets et entrepreneuriat, il travaille dans différents établissements publics, privés ou associatifs. Il se définit comme pluridisciplinaire, polycompétent et passionné de surf. Lors d'un voyage en Australie, Jérémy Lucas a l'idée d'utiliser les algues qui polluent les plages comme matière première pour fabriquer des matériaux innovants et lancer son projet de planche de surf en matériaux recyclés et biosourcés. Au cœur du projet de Jérémy Lucas, la valorisation des déchets issus de la mer qui deviennent une ressource précieuse pour la fabrication durable de matériel sportif. Un objet plus respectueux des océans, mais pas seulement.
Je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous avez une planche qui n'est pas faite comme les autres, vous avez un rapport au sport qui est différent lui aussi. En plus de ça, quand c'est biosourcé, vous avez un autre rapport aussi à la nature. Au-delà d'une œuvre d'art fonctionnelle 4.0, c'est l'expérience derrière utilisateur, utilisatrice qui m'intéresse beaucoup. J'ai hâte d'avoir les premiers retours sur l'expérience qu'ils vont avoir à l'eau avec ce genre de matériel.
Jérémy Lucas s'inspire des formes d'algues pour concevoir le design de sa planche de surf nouvelle génération, performante et esthétique.
Je me suis inspiré d'une algue, une diatomée, mais à l'échelle nanométrique, avec ces formes concentriques là, et à l'échelle cette fois-ci microscopique, ça ressemble à une planche de surf. Je me suis dit, ah ouais, il faut que je parte de ce constat-là pour venir designer la structure en forme circulaire de la planche de surf, donc du design visuel On a réussi à en faire une efficience structurelle, c'est-à-dire qu'on arrive à utiliser peu de matière et avoir quelque chose de très solide et donc des planches très durables.
Retrouvez l'univers de Jérémy Lucas sur RFI.fr chronique 100% création et sa version longue en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso pour 100% création et le journal dans une minute sur RFI. À tout de suite.
Queen Rima, lauréate du prix découverte RFI 2025, sera en tournée en France. La reine du dancehall Made in Guinée vous attend pour une série de concerts. Le 20 juin à Marseille, le 26 juin à Paris au New Morning, le 28 au Festival Nuit Métis de Miramas. Plus d'infos sur le site rfi.fr/musique. Le prix découverte RFI en partenariat avec l'Institut français.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Un des derniers géants de la littérature africaine et mondiale, le Kenyan Ngugi Wa Thiong'o est mort, militant infatigable de la décolonisation des langues africaines. Il s'en va avec un grand héritage, boussole qui éclaire encore le chemin vers la libération. Je lui rends hommage avec un plateau spécial.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU sur RFI.